Merci d'écouter RFI. Midi en temps universel, il est 15h à Moscou. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Sidraki.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. La balle est maintenant dans le camp de la Russie après la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Qui a fait d'accord? Le Kremlin dit attendre plus d'informations. La riposte de Bruxelles au nouveau droit de douane américain sur l'acier et l'aluminium. L'Union européenne annonce des taxes sur une série de produits en provenance des États-Unis. Et il y enlevera un sérieux air de déjà-vu. On sera également au Pakistan après la spectaculaire attaque des séparatistes du Baloutchistan contre un train. 190 otages ont été libérés. La contre-offensive de l'armée est toujours en cours.
RFI.
À suivre aussi, qui pour prendre la tête du Parti Socialiste en France en vue du congrès, il est prévu en juin. Le patron des députés PS, Boris Vallaud, entre dans le match. Du Grand Paris hier soir, retour sur la victoire du PSG face à Liverpool en Ligue des Champions. Au bout du suspense, le journal des sports, ce sera dans un petit quart d'heure. Et puis la voix puissante de la chanteuse italienne Maria Mazzotta dans son nouvel album Onde. Elle nous fait voyager en Méditerranée et comme la mer, parfois apaisante, parfois déchaînée.
Les diplomates discutent d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, mais sur le terrain, on en est loin.
Notamment dans la région russe de Koursk, cette région que Kiev espère utiliser comme monnaie d'échange dans des négociations de paix. Une attaque ukrainienne a fait 4 morts ce matin. De son côté, l'armée russe revendique la reprise de 5 villages et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, salue une dynamique positive, je cite, dans la zone.
Nous suivons de près toutes les informations qui nous parviennent de nos forces armées et les données fournies par notre armée indiquent que nos troupes progressent avec succès dans la région de Koursk, libérant les zones qui étaient sous le contrôle des militants. La dynamique est bonne.
Dmitri Peskov, donc, ce matin, après des entretiens à Jeddah, en Arabie Saoudite hier, l'Ukraine a, elle, accepté une proposition américaine pour une trêve de 30 jours. Et du côté de Moscou, Jean-Didier Revoin, pour l'instant, c'est ni oui ni non.
Moscou donne donc l'impression de vouloir gagner du temps en continuant à chasser les troupes ukrainiennes de son territoire dans la région frontalière de Koursk. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine s'était toujours opposé à un cessez-le-feu temporaire. Il souhaite en effet parvenir à un arrêt complet des combats sur la base des territoires conquis par les forces russes et conclure ce qu'il appelle une paix à long terme fondée sur le respect des intérêts légitimes de tous les habitants et de tous les peuples qui vivent dans la région. Pour le président russe, une trêve offrirait un répit permettant aux troupes ukrainiennes de se regrouper et de se réarmer pour, à terme, reprendre le conflit. C'est pour cela que le porte-parole du Kremlin a précisé qu'il était trop tôt pour que Moscou se prononce sur la proposition d'une trêve de 30 jours. Pour Dmitri Peskov, les émissaires américains Marco Rubio et Mike Waltz vont informer les autorités russes du contenu précis et des détails de l'accord. Des discussions devraient avoir lieu dans les heures qui viennent. Et Dmitri Peskov n'exclut pas que Vladimir Poutine et Donald Trump puissent se parler directement et même très rapidement si la situation devait l'exiger. Ce n'est qu'ensuite qu'on saura si Donald Trump est parvenu à infléchir les positions de Vladimir Poutine. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Et dans quelques minutes, nous reviendrons sur cette proposition de cessez-le-feu élaborée hier par les États-Unis et l'Ukraine, et puis sur la situation sur le terrain, notamment dans la région de Koursk que l'on évoquait il y a quelques instants. Midi et 4 minutes en temps universel. Les jeans, les motos, Harley Davidson ou encore le bourbon, ces produits symboliques américains vont de nouveau être taxés par l'Union européenne, et ce à partir du 1er avril.
Bruxelles contre-attaque après l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium. Il y aura un premier temps, donc ces mesures symboliques, et puis une seconde volée de contre-mesures qui amènera la réponse européenne à hauteur de 26 millions d'euros de droits de douane sur les importations américaines. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Les droits de douane sont des taxes. Ils sont mauvais pour les entreprises et pire pour les consommateurs. Ils perturbent les chaînes d'approvisionnement. Ils sont source d'incertitude pour l'économie. Des emplois sont en jeu. Les prix augmentent. Personne n'a besoin de cela, ni dans l'Union européenne, ni aux États-Unis. Dans un monde marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques, il n'est pas dans notre intérêt commun de faire peser de tels droits de douane sur nos économies. Nous sommes prêts à entamer un dialogue constructif.
Voilà, Ursula von der Leyen, de la présidente de la Commission européenne. Il y a comme un air de déjà-vu, hein, lors de son premier mandat. Donald Trump avait déjà taxé l'acier et l'aluminium et l'Union européenne, de son côté, avait déjà pris des contre-mesures qui sont donc ressorties des tiroirs, Myriam Berber.
Sous son premier mandat en 2018, Donald Trump avait déjà instauré des surtaxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium pour protéger l'industrie américaine. Une mesure qui a eu un impact limité pour les sidérurgistes. Durant cette période, les importations américaines d'acier ont certes baissé de 24% et celles d'aluminium de 31%, mais aucun bénéfice n'est apparu ni en termes d'emploi, ni en termes de production, et les prix ont augmenté, ce qui a nourri l'inflation. Selon un rapport de la Commission internationale du commerce américain publié en 2023, la hausse de ces taxes s'est traduite par un surcoût de 3,5 milliards de dollars par an sur la période de 2018 à 2021 pour les utilisateurs d'acier et d'aluminium comme l'automobile, la construction et l'emballage. Et pourtant, Donald Trump a décidé de relancer cette guerre commerciale et les premières conséquences sont là. Recul de Wall Street, perturbation des chaînes de production et crainte d'une récession aux États-Unis.
Et parmi les réactions, la Chine, premier producteur d'acier au monde, a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts.
C'est dans ce contexte que le premier ministre irlandais vient offrir un bol de trèfle au président américain à Washington.
Oui, c'est une tradition de la Saint-Patrick. Ce sera dans quelques jours, le 17 mars. C'est une coutume qui date de 1952 et qui symbolise les liens historiques entre Dublin et Washington. Sauf que là, cette année, ce geste diplomatique est plombé par la guerre commerciale. L'Irlande se retrouve en première ligne, Clément Pénard.
L'année dernière, l'Irlande a exporté 72 milliards d'euros vers les États-Unis contre seulement 22 milliards d'importations et l'économie irlandaise est largement portée par des entreprises américaines que Trump rêve de rapatrier. Emma Howard est économiste à l'Université technologique de Dublin.
Nous dépendons beaucoup des multinationales étrangères américaines. Plus d'un euro sur quatre de nos recettes provient de l'impôt sur les sociétés et près de la moitié de ces recettes fiscales proviennent de seulement trois multinationales américaines.
Le moindre faux pas de Miral Martin pourrait donc lui coûter cher, selon Daniel Geary, professeur d'histoire américaine à Trinity.
Traditionnellement, cette visite est plutôt perçue comme une bénédiction pour l'Irlande, une forme de soft power qui permet à ce petit pays d'avoir chaque année une audience avec le président des États-Unis. Mais cette année, ça ressemble plus à une malédiction. Le mieux pour l'Irlande serait que Trump ne s'y intéresse pas trop. Martin devra donc marcher sur des œufs.
Beaucoup en déduisent que le sort des Palestiniens, pourtant cher aux Irlandais, sera passé sous silence, car il faut éviter de froisser les États-Unis à tout prix. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Après la collision en mer du Nord lundi, on a appris que le capitaine du cargo qui a percuté un pétrolier affrété par l'armée américaine est de nationalité russe. Cet homme de 59 ans est toujours en garde à vue au Royaume-Uni.
Des élections législatives au retentissement international au Groenland.
Ce territoire autonome danois convoité par Donald Trump. Au final, surprise, l'opposition de centre-droit a remporté le scrutin en deuxième position, les nationalistes qui réclament une indépendance rapide de l'île. Peine de prison alourdie pour l'ex-président de Géorgie, Mikhail Saakachvili, condamné à 9 ans de détention pour détournement de fonds. C'est 3 ans de plus que la peine initiale. Hospitalisé à Tbilissi, l'ancien chef d'État n'a pas assisté à l'audience ce matin.
RFI à Paris, 89 FM.
Une opération à grande échelle de l'armée pakistanaise toujours en cours après l'attaque de séparatistes balouches contre un train dans le sud-ouest du pays.
Attaque spectaculaire de l'armée de libération du Balouchistan qui a forcé un train donc à s'arrêter avec des explosifs qui ont détruit les rails dans ce secteur à la frontière de l'Afghanistan et de l'Iran en pleine zone montagneuse et escarpée. Le train transportait plus de 450 passagers. Pour l'heure, les autorités indiquent que 190 otages ont été libérés, 30 assaillants tués, Sonia Ghezali.
Des hélicoptères survolent régulièrement la gare de Quetta. La sécurité est en alerte maximale. La zone est quadrillée par des militaires alors qu'une foule de proches de passagers du Jafar Express sont rassemblés sur le parvis de l'aérogare. Moudjib, journaliste pour la presse locale, est sur place depuis ce matin.
Les médias et même les membres des familles des otages ne sont pas autorisés à entrer dans le bâtiment principal de la gare. Les familles sont très inquiètes et ont beaucoup de mal à obtenir des informations sur leurs proches.
Alors qu'aucune information ne filtre, la tension grandit chez les proches des otages. La voie ferrée est le seul moyen d'acheminement des forces de sécurité et des équipes de secours vers le lieu de l'attaque.
Il y a quelque temps, un camion militaire rempli de cercueils vides a été amené à la gare, puis déplacé vers l'arrière de la gare et des cercueils vides y ont été déchargés. Nous avons également pu constater qu'un certain nombre de cercueils étaient conservés à l'intérieur de la gare depuis ce matin.
Du renfort militaire est également arrivé sur place. Des soldats et des paramilitaires lourdement armés, plusieurs munis de lance-roquettes. Ils ont tous embarqué à bord d'un train qui a pris la direction du tunnel de Machkaf à 150 km de Quetta, là où a lieu la prise d'otages. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Rodrigo Duterte en voie de transfert vers l'AEM et donc la CPI à bord d'un jet privé. L'ancien président des Philippines a décollé vers Rotterdam après une escale à Dubaï. Sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il doit être jugé pour crime contre l'humanité. Des organisations de défense des droits de l'homme estiment que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées sous sa présidence et sous couvert de lutte contre le trafic de drogue. De leur côté, les avocats de l'ancien président s'activent pour demander son retour à Manille.
En France, les ambitions s'aiguisent au Parti socialiste.
Avec en ligne de mire le Congrès, le PS doit élire son premier secrétaire d'ici le début du mois de juin. Un poste stratégique qui pourrait être synonyme de candidature à la prochaine présidentielle, donc en 2027. Dans cette perspective, les alliances d'hier sont remises en cause. Les uns et les autres placent leurs pions. Aurélien Devernois, comme le patron des députés socialiste, Boris Vallaud, ira pas, il entre en tout cas dans la bataille.
Oui, c'est dans une tribune publiée par le journal Libération que Boris Vallaud affiche ses nouvelles ambitions, rassembler le parti, cribler des rivalités, puis unir la gauche derrière le PS, sous-entendu derrière lui. Une véritable déclaration d'intention en attendant une candidature officielle, ce qui ne manque pas de faire grincer les dents chez les partisans de l'actuel patron du PS, Olivier Faure. On a tout fait ensemble depuis 2018. Quelle va être la différence entre lui et nous, s'interroge un cadre socialiste. Du côté des opposants à Olivier Faure, ils sont nombreux. Les mots sont en revanche élogieux. Il a le bon âge, la bonne visibilité, explique un sénateur PS. Il avait bien travaillé lors de l'élaboration du programme de la présidentielle 2022, dit un élu local. La direction actuelle s'interroge surtout sur la multiplication de candidatures. Avec Boris Vallaud, il pourrait être 4, voire 5 à concourir face à Olivier Faure. Certains y voient la main de l'ancien président François Hollande. Tout l'intérêt pour lui est de pousser plusieurs lignes et ainsi diviser le parti, explique un proche d'Olivier Faure. Comme ça, il pourra se présenter comme le recours et le rassembleur pour être candidat en 2027.
Suite donc au prochain épisode, Aurélien Devernois.
C'est l'une des voix les plus singulières de la Méditerranée. Maria Mazzotta, icône de la scène musicale des Pouilles dans le sud de l'Italie, vient de sortir un nouvel album.
Ça s'appelle Onde, vague en français. L'italienne nous embarque au cœur des chants méditerranéens revisités. 12 titres poétiques ou rock, c'est le choix musical du jour, Carmen Lunzmann.
Elle chante son amour et sa rage face à la mer, cette Méditerranée devenue cimetière de bateaux et de tant de migrants qui ont essayé de la traverser. De la douceur d'une berceuse à la force d'une tempête, Maria Mazzotta passe par des états d'âme aussi contrastés que les vagues de la mer. Dans son album Onde, elle insouffle un vent nouveau au chant traditionnel de la Méditerranée. Du fond de ses poumons, son tambour italien à la main. Pour apporter une touche plus rock, plus groove, plus urbaine, Maria Mazzotta a embarqué deux autres musiciens italiens aux percussions et à la guitare électrique. Mais ce qui fait la force de cet album, c'est la voix de la chanteuse. Une voix aux innombrables nuances, tantôt rauque et viscérale, tantôt délicate et fragile. Une voix qui lance un appel pour plus d'humanité et de solidarité et qui invite aussi un guitariste touareg nigérien, Bombino, pour ce titre « Tu ne peux pas être seul ».
Maria Mazzotta en tournée pour ce nouvel album Onde. Elle fera notamment escale au consulat à Paris ce samedi 15 mars.
Merci Charlotte Hydrac, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
13h15 à Paris, le sport avec vous, Solène Ravenel, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On va commencer par du football et la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est allé chercher au bout du suspense la qualification en quart de finale hier soir face à Liverpool.
Mené 1-0 après le match aller, les Parisiens sont allés battre les Anglais dans leur antre d'Anfield sur le même score grâce à un but d'Ousmane Dembélé avant de terrasser Liverpool au tir au but. Solidaires jusqu'au bout, les Parisiens n'ont jamais cédé malgré les assauts des Reds. Le capitaine Marquinhos, qui sera suspendu en quart de finale aller à cause de son carton jaune reçu hier soir, loue l'état d'esprit irréprochable de son équipe.
Donc on teste, ça a été vraiment très difficile pour nous. On a perdu le premier match à la maison, il fallait venir ici à Anfield. Et on connaît de la difficulté qui c'est, il y a très peu d'équipes qui arrivent à s'imposer ici, on a réussi. On a fait un super boulot, je pense qu'on a su gérer nos temps faibles et profiter un peu de notre temps fort. Je pense qu'aujourd'hui on a montré ce qu'est le caractère de l'équipe, ce qu'est la personnalité de l'équipe, le collectif qui c'est notre plus grande force. Il faut vraiment féliciter tout le monde a défendu quand il faut. On a réussi à mettre notre plan en jeu. On a eu quelques moments de difficulté, mais on a su vraiment tenir et avec l'aide, le collectif de tout le monde, même ceux qui ont rentré, il faut le féliciter tout le monde.
En quart de finale, le PSG retrouvera d'autres Anglais, ceux d'Aston Villa ou les Belges de Bruges, qui s'affrontent ce mercredi. Qualification également pour le Bayern, l'Inter Milan et le Barça qui a déroulé face au Benfica. Victoire 3-1 pour les Espagnols grâce à un doublé de Rafinha et des exploits de Lamine Yamal.
On connaîtra les derniers qualifiés pour ces quarts de finale ce soir. L'autre club français, Lille, reçoit le Borussia Dortmund et peut croire à une qualification.
Auteur d'un bon nul 1-1 à l'aller en Allemagne, les Lillois sont en balétoge légèrement favorable en vue d'une qualification qui serait historique pour le club. Face à eux, Dortmund, finaliste sortant de la compétition, mais l'équipe allemande est en grande difficulté en championnat cette saison. Ils sont 10e sur 18. Elle reste cependant toujours dangereuse dans les grands rendez-vous, selon l'entraîneur lillois Bruno Genesio.
Borussia est le dernier finaliste de la Champions League et pour aller en finale, ils avaient éliminé le Paris Saint-Germain. Donc ça montre toute la qualité de cette équipe. Deuxièmement, ils ont des joueurs extrêmement expérimentés qui ont davantage l'habitude de jouer ce genre de match que nous. Et troisièmement, sur leur parcours en Champions League notamment, ils ont 3 victoires sur les 4 déplacements qu'ils ont effectués dans la phase de groupe. Ça montre toute la qualité de cette équipe, qui, il est vrai, en championnat n'a pas les résultats escomptés, mais qui est une toute autre équipe en Champions League. Donc pour moi, ça reste du 50-50 avant ce match retour.
Lille-Dortmund, début du match à 17h45, temps universel.
Parmi les autres affiches de la soirée, le choc, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du rival, l'Atlético, pour la manche retour de ce duel 100% madrilène.
Lors du match aller, les coéquipiers de Jude Bellingham se sont imposés 2-1. Rien n'est donc encore joué dans cette double confrontation, comme le confirme l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti. Mais le club a une attache particulière avec la Ligue des Champions, compétition qu'ils ont gagnée 15 fois.
On est dans une bonne dynamique. On est très motivés, comme d'habitude lorsque nous jouons la Ligue des Champions. Ce sera un match difficile, comme cela a été à l'aller. Mais nous sommes confiants. On veut poursuivre dans cette compétition qui nous est chère. Si nous gagnons, alors on pourra rêver d'aller loin dans la compétition, comme nous l'avons fait les saisons précédentes. Ces huitièmes de finale sont plus difficiles qu'avant, mais nous sommes confiants, comme toujours. On continuera de se battre pour la Ligue des Champions jusqu'au dernier match.
À noter que Kylian Mbappé est incertain pour le match. Il n'a pas pris part au début de l'entraînement hier soir et doit passer des tests physiques aujourd'hui.
Enfin, un mot de tennis. Le Français Arthur Fils s'est qualifié en quart de finale de l'Indian Wells.
Dans le désert californien, Arthur Fils a suivi l'exemple du PSG, son club de cœur. En huitième de finale, il a dominé l'Américain Marcos Giron en 3-7 au terme d'un match haché par la pluie. C'est la première fois que le Français se qualifie dans des quarts de finale d'un Master 1000. Au prochain tour, il sera opposé au Russe Daniil Medvedev. Côté femme, Elina Svitolina a réalisé la grosse performance de la journée. L'Ukrainienne 23e mondiale a éliminé l'Américaine Jessica Pegula, 4e. Elle retrouvera en quart de finale la jeune joueuse russe Mira Andreeva.
Le journal des sports, Solène Ravenel. Les sports à suivre aussi sur internet, rfi.fr.
RFI, Le Monde à midi.
Tout de suite, on va retrouver notre invité. Bonjour, Père de Jong.
Bonjour.
Ancien colonel des troupes de marine, vous êtes vice-président de l'Institut de formation Thémis, dédié aux problématiques de paix et de sécurité. Et vous avez écrit « Agir entre les lignes » paru aux éditions Mareuil. La Russie dit ce matin attendre une proposition officielle de la part de Washington au lendemain de la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur un cessez-le-feu de 30 jours. L'Ukraine avait-elle vraiment le choix ?
Ah non, l'Ukraine était totalement, comment dire, dans les cordes, mais en fait l'Ukraine a eu de la chance, parce que rappelons-nous, il y a 40 jours, lorsque le président Trump est arrivé aux affaires, il a clairement dit qu'il ne voulait même pas voir les Ukrainiens. Il voulait simplement discuter en tête-à-tête avec Poutine et trouver une solution à cette guerre. On voit qu'en fait, la pression internationale, tout ce qui s'est passé depuis une semaine, depuis la fameuse séquence dans le salon Oval, a fait qu'en fait Zelensky a réussi à s'imposer dans la discussion, dans la négociation, et donc ce qui a permis en fait hier à la délégation ukrainienne de parler enfin avec la délégation américaine et sur un ton, il me semble, un ton normal et diplomatique.
Alors l'unique levier de négociation pour l'Ukraine, c'est la région russe de Koursk qui est occupée depuis 7 mois en partie par l'armée ukrainienne. Ça semble bouger beaucoup hein, dans cette zone. Quelle est la situation sur le terrain là aujourd'hui ?
À l'heure où je vous parle, en fait, les Russes commencent à communiquer sur la reprise de Soudja. Soudja, c'est la grande ville, en fait, de la région, parce que les Ukrainiens n'ont jamais atteint la ville de Koursk, hein. Et donc, Soudja était la grande ville qui tenait, et là, visiblement, les Russes viennent de reprendre la ville. Donc, moi, ce que je pense, c'est que très concrètement, les Ukrainiens ne pourront pas tenir, en fait, dans cette région. Ils vont être obligés de se replier sur la frontière.
Est-ce que la suspension des renseignements américains à l'Ukraine a joué un rôle, là, dans ce retournement de situation?
Alors c'est dur à savoir parce qu'en une semaine c'est pas tout à fait évident. Ceci étant dit, c'est sûr que dans cette opération-là, je prends un exemple concret, probablement pendant une semaine les Ukrainiens ont été sourds et aveugles, et c'est sûr qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas eu les informations, des Américains leur donnant des indications sur les concentrations de blindés ou les concentrations de forces et dans la région de Koursk principalement. Donc certainement ça les a gênés. Le problème c'était le renseignement stratégique, parce que l'avantage d'avoir les renseignements américains, c'est qu'en fait le système américain permettait de détecter le décollage des avions, des bombardiers qui décollent de Russie et qui vont lancer des missiles sur l'Ukraine. Donc tout ça, ça a fait que c'est vrai que l'Ukraine a été quand même extrêmement déstabilisée, et donc la nécessité de discuter avec les Russes, en tout cas des Américains dans un premier temps, était parfaitement, je dirais, obligatoire et indispensable.
Vous nous dites que l'Ukraine risque de devoir se retirer de cette région de Koursk. Est-ce que selon vous, la Russie peut reprendre complètement le contrôle de cette zone avant d'être obligé de répondre à la proposition de cesser le feu ?
Oui, d'abord on a aucune information qui émane des Russes. Les Russes disent simplement qu'ils attendent de l'information de la part des Américains, puisqu'ils ne parlent pas avec les Ukrainiens. J'imagine que tant que les Ukrainiens sont en place dans la région de Koursk, j'imagine que les Russes refuseront de discuter.
Et qu'est-ce qui peut se passer après si l'Ukraine n'a plus ce levier-là ? Est-ce que la Russie aurait un intérêt au cesser le feu si elle reprend Koursk ?
Alors oui, je pense que oui. Le problème encore une fois, il peut y avoir une trêve d'abord, parce qu'il y a un cycle. Hein. C'est trêve, c'est le feu, puis après la négociation d'une paix. Donc en fait, une trêve, c'est possible. On voit bien que même les Ukrainiens l'avaient proposé. Et là, et ce qui va arriver là dans les jours qui viennent, théoriquement, si Poutine l'accepte, c'est une trêve qui va durer 30 jours, à partir de laquelle ils pourront négocier quelque chose. C'est-à-dire, en fait, le tracé d'une ligne de confrontation, et neutralisation de l'Ukraine, enfin que sais-je, il y a toute une série de propositions qui sont sur la table. Donc c'est l'activité principale. Et donc aujourd'hui, il faut bien que les Ukrainiens trouvent une solution, il faut une sortie de crise. Maintenant, le problème des Russes, c'est que les Russes ont un autre problème, c'est que si ça se stabilise, le problème c'est le retour à ce qu'on appelle une économie de paix. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les Russes sont en économie de guerre. 10% de leur PIB est consacré aux achats de défense. Ils ont de la croissance, même si le rouble ne se porte pas très bien. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de décélération du côté de l'économie russe qui va être extrêmement difficile, ce qui me fait dire que très concrètement, je pense que les Russes vont maintenir une forme de pression, principalement sur la frontière ukrainienne et dans la région du Donbass.
Dans cette région, justement, là aussi, la Russie avance. On sait que l'Ukraine mobilise des moyens très importants dans la région de Koursk dont on parlait à l'instant. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les combats sur le sol ukrainien dans l'Est et dans le Nord-Est ?
Le problème, c'est qu'on sait toujours, vous savez, lorsqu'il y a une négociation qui arrive, ou une discussion sur une trêve, on sait toujours qu'il va y avoir une accélération des combats, et une amplification des combats entre les deux belligérants par la force des choses. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre ont besoin d'avoir, de maintenir des gains territoriaux. Très concrètement, les Ukrainiens vont vouloir maintenir les gains territoriaux de la région de Koursk, et évidemment de maintenir une ligne de contact, et d'éviter que la ville de Pokrovsk, qui est extrêmement importante, soit prise par les Russes. Et les Russes ont exactement l'ambition inverse. Donc on va assister dans les jours qui viennent à une accélération des combats. On le voit déjà. Rappelez-vous, avant-hier, les Ukrainiens ont essayé de bombarder la ville de Moscou avec plus de 300 drones. Donc on voit qu'il y a une accélération des combats, une espèce de montée en puissance pour en fait avoir des gains territoriaux, ou en tout cas des gains, je dirais, tactiques les plus importants possibles.
Mais est-ce que l'Ukraine peut encore en obtenir des gains tactiques ?
Ben elle peut encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Américains, on l'a dit très clairement cette nuit, qu'ils allaient en fait réouvrir les vannes, et les Polonais relivrent actuellement du matériel aux Ukrainiens. Donc en fait, on assiste à un rééquilibrage. Je pense que Trump a été obligé quelque part, sous la pression internationale, sous la pression de son opinion publique, il a senti qu'il ne pouvait pas abandonner à 100% l'Ukraine. Donc là, on voit bien qu'ils sont en train de lâcher du lest, et donc les Polonais ont repris les livraisons de matériel.
Merci, Père de Jong, d'avoir été en ligne avec nous. Ancien colonel des troupes de marine, vous êtes vice-président de l'Institut de formation Témis et vous êtes l'auteur du livre « Agir entre les lignes » publié aux éditions Mareuil. Merci.
Merci.
On en parlait tout à l'heure dans le journal. L'administration Trump persiste dans sa guerre commerciale. Elle impose depuis hier des droits de douane de 50% à l'acier et à l'aluminium venus du Canada. Et cette mesure, elle inquiète jusqu'en Europe, notamment en Espagne, troisième producteur d'acier en Europe et qui craint des répercussions. Notre correspondante Diane Cambon s'est rendue dans le nord du pays, dans la région des Asturies, là où se trouvent les principales usines de fabrication et de transformation du métal.
Deux hauts fourneaux crachent jour et nuit leurs flammes et fumées au milieu d'un enchevêtrement de tuyaux et d'usines, digne d'un décor futuriste à la Mad Max. C'est la cité d'ArcelorMittal, le géant mondial de la sidérurgie. Son activité contribue à 12% du PIB local et permet d'employer directement 5000 personnes et 2000 sous-traitants. Parmi eux, Oxyplan, une entreprise de 160 salariés spécialisée dans la transformation du fer et de l'acier. Les clients européens ne manquent pas pour l'instant, comme l'assure Jorge Torres, responsable du département marketing.
Nous sommes actuellement dans un processus de croissance. Notre grande force est de disposer d'une gamme de machines très ample qui nous permet de nous diversifier sur le marché, même s'il est vrai que le marché peut varier et qu'il existe une certaine incertitude générale.
Ce sont les répercussions des frais de douane américains sur le marché international de la sidérurgie qui font perdre le sommeil des entrepreneurs locaux. Car les Asturies exportent principalement en Europe. L'Europe, touchée par les hausses de droits de douane américains. Dans le vaste hangar d'Oxyplan, Jorge Torres regarde avec fierté les pièces d'acier finement coupées, dont certaines vont être exportées en Allemagne.
Tout le marché international va être touché, évidemment. L'Allemagne est la locomotive de l'acier en Europe. C'est un client direct. Mais l'Allemagne est aussi impliquée dans des projets chez nous ou ailleurs avec nos partenaires. Tout se répercute. Et c'est sûr que les frais de douane ne vont rien arranger à la situation actuelle.
La nouvelle conjoncture politique apporte toutefois quelques espoirs financiers pour la métallurgie locale. Comme le souligne Bruno Lopez, le dirigeant d'Asturex, une entreprise semi-privée en charge de promouvoir les produits des Asturies à l'étranger.
Il y a une industrie qui ne se voit pas facilement et qui a toujours été là dans les Asturies, qui est celle de l'industrie de la défense. Ici, il existe un hub, un cluster de 40-50 entreprises dont la majorité sont liées au métal. Et tout ce qui est en train de se préparer en Europe avec la défense va réactiver ce secteur. Ici, on fabrique des blindés et toutes sortes de composants. C'est un secteur qui va avoir du poids dans la production en Asturie.
Le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a assuré que l'Espagne allait passer de 1,3% à 2% de son PIB en matière de défense, ce qui suppose un investissement de 10 milliards d'euros. Dans les Asturies, le secteur du métal se prépare déjà à accueillir de nouveaux projets militaires.
Ce mercredi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
25% de droits de douane supplémentaires sur l'acier et l'aluminium européen vendus aux États-Unis dès cette semaine et des taxes similaires annoncées sur tous les autres produits d'exportation. L'industrie européenne craint le pire.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
Ce jeudi, Couleur Tropicale fête ses 30 ans.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga, nous avons 30 ans, 3 décennies au service des musiques et cultures afro. Nous aurons 2 heures d'antenne sur RFI, 2 heures de fête avec de nombreux invités, beaucoup de musique, des émotions, des surprises et peut-être des larmes de joie. Couleur Tropicale à 30 ans, rendez-vous jeudi 13 mars à 20h10 temps universel, 21h10 en France, toi-même tu sais.